finance. Financement hiérarchique bancaire ou financement participatif? Tiens, là aussi, nouveau modèle qui s'inscrit. Deux petits livres, mais vous verrez. Alors, regardez, ça c'est l'économie collaborative, je ne commente pas. Et c'est pour vous montrer que c'est schématisé, pensé, imaginé maintenant. Hein? Alors, ça amène de nouvelles valeurs. Vous voyez, dans les anciennes valeurs, professionnalisme, spécialisation, expertise. Fais-le toi-même, culture des makers. Je vous laisserai lire, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein. Exclusivité, compétition, autorité, open source, collaboration, full, partage, rumeur. Changement radical de modèle. Partager le savoir et le coproduire entre pairs. C'est ça l'essence même de la société collaborative. On partage et on coproduit entre pairs, c'est Wikipédia. Sur le modèle de base, c'est Wikipédia. Proposer de nouveaux modes du lire et d'accès aux ressources. Favoriser le déploiement et l'accès aux données libres, libres de droit. Construire un socle de bien commun. La notion de bien commun est absolument essentielle aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le bien commun ? Absolument, c'est ce qui nous appartient à tous. Aujourd'hui, ce mouvement du bien commun est mondial, de l'université, du département de droit de l'université Stanford à la Sorbonne en passant par un quartier. La notion de droit de bien commun devient essentielle. En gros, si Google privatise la culture, comment les théâtres, les médiathèques, les centres d'art, les archives départementales, les lycées, les centres de recherche vont, eux, garantir la gratuité de la culture, sa diffusion libre de droit auprès des citoyens, hein, c'est-à-dire garantir ce bien commun. Mais le bien commun, c'est aussi une rivière polluée dans un petit village, et tous les gens en collaboratif se réunissent pour essayer de résoudre le problème de la rivière polluée. C'est aussi le soleil, le bien commun. C'est une chose essentielle aujourd'hui dans l'économie, dans la société collaborative. Défendre les biens communs. Alors, tout est open, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout est open. Open source, open model, open data. Qu'est-ce que c'est l'open data? Ça pourrait être un thème du PMN là, par exemple, open data.
La transparence des
données. Oui, la libération des données. Que les données soient libres de droit. Un théâtre, le théâtre de Grégoire, c'est pas un type de spectacle. Bon, non. Le théâtre de Grégoire produit des données. Produit des données. Anne Le Guin produit des données. Toute l'équipe du théâtre produit des données. Vous produisez des données. Et tous ici, vous produisez des données. Est-ce que ces données, vous êtes prêts à les libérer, c'est-à-dire à les mettre sous open data, données ouvertes, de façon à ce que plein de gens puissent les réutiliser, un prof, une association, hein, les réutiliser. Ce mouvement de open data est mondial. Il est suivi par la Commission européenne, et les plus grandes métropoles de France, Montpellier, Nantes, ont mis en place des portails d'open data, où il y a des jeux de données autour de tout et n'importe quoi. Le nombre de parcs, le nombre d'arbres, toutes les données de la ville, par exemple. Oui, et je télécharge les données brutes et moi, par contre, je peux les utiliser. Si j'ai un projet citoyen, je peux les utiliser.
Et les données personnelles.
Ah non, ça, c'est pas les données personnelles. Les données, c'est les données publiques, en fait. C'est les données qui sont dites publiques.
Ah, je pose la question de la vie des données personnelles.
Ah, ça, c'est autre chose. Oui, mais ça, non, c'est pas le sujet. C'est un sujet fondamental, évidemment. Mais c'est pas le sujet que... Donc, tout est open. Alors, ces données, ben, je peux les réutiliser. Je peux les mixer, les remixer, je peux produire du savoir avec, justement, de la connaissance. Est-ce que vous avez entendu parler de muséomics? Ah, muséomics, je ne sais pas, hein, c'est quoi muséomics? Toi, tu connais bien.
Oui, bien, je ne dirais pas, mais muséomics, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un depuis 5 ans. Et pendant 3 jours, des personnes envahissent un musée pendant ses heures d'ouverture, un musée national. Et on forme des équipes de 6 personnes, 6 compétences complémentaires qui vont remixer le musée, qui ont 3 jours pour inventer un nouveau dispositif de médiation, un nouveau rapport au musée, une nouvelle ouverture au public. Et donc ces 6 personnes, si je ne me trompe pas, on a une personne sur la communication, une personne de la médiation, mais aussi quelqu'un qui est plus développeur web, un maker, quelqu'un qui est capable de fabriquer des objets, et encore deux
designers,
voilà, designer,
des facilitateurs.
Des facilitateurs, voilà. Et cette équipe de 6 personnes, avant 3 jours non-stop pour travailler, à la fin sort un prototype et donc aura en 3 jours appris une nouvelle manière de collaborer, c'est quand même une expérience humaine à vivre, une nouvelle manière de regarder le musée dans lequel il est avec un rapport au public, parce que le public circule autour, et ensuite le prototype qui est créé et mis à disposition du public et utilisé pour voir comment ça va.
Et pas de dimension commerciale. C'est une œuvre collaborative. Imaginez, vous êtes au musée des sciences naturelles de Nantes, il y a eu un muséomics. Alors il y a des gens qui ont, il y avait toute une collection de minéraux. Alors les gens ont imaginé un dispositif pour faire comprendre les minéraux au public. Ils s'y sont réunis, ils ont construit une équipe. Alors ça peut être la création d'une app tablette, ça peut être un robot, ça peut être un objet design interactif. Ces gens se réunissent sans objectif financier, se réunissent de manière naturelle et libre pour inventer une autre médiation du musée. Avec les technologies numériques, évidemment. Ça s'appelle Muséomix, alors ça se décrit partout. Il y a les hackathons. Le ministère de la Culture a fait des hackathons. Pareil, hacker les données culturelles. Fabriquer d'autres corpus culturels à partir des données. Il y a eu les bibliomix. Alors ça, c'est les bibliothèques, les médiathèques. On repense la médiathèque en prenant des citoyens, des élus, des lecteurs de la médiathèque, des bibliothécaires, on les enferme pendant 2 jours, avec des Lego, des Playmobil, des bouts de carton, des post-it. Des crayons, des caméras, toutes sortes de tablettes, et on essaye pendant 2 jours de réinventer la médiathèque à l'heure de la société collaborative. Peut-être un peu ce qu'on peut faire cet après-midi d'ailleurs, en collaboration. Alors oui, qu'est-ce que ça dénote? L'émergence d'une notion fondamentale qui existe depuis longtemps, mais là qui prend vraiment corps. Citizen empowerment. À l'ère d'un réseau distribué qui n'a pas de centre et qui abolit la hiérarchie pour mettre à jour l'idée du collaboratif, forcément, le citoyen prend du pouvoir. Il devient co-créateur, co-décideur, co-inventeur de la politique publique, de la politique culturelle du musée, et pourquoi pas de celle du théâtre. Il est co-inventeur, c'est le pouvoir d'agir. Et ça, on ne reviendra pas en arrière. Le citoyen est en train de prendre le pouvoir. Et ça n'a rien à voir avec la droite ou la gauche. Oubliez les idéologies. Non. C'est ça qui est intéressant, c'est que les partis publics n'ont rien vu. Ils ne voient pas ce qui est en train de se passer sur les territoires. Hein. C'est parfait comme ça. Hein.
Mais d'où la surveillance à creux qui se met en place avec des voies comme la voie en
aussi.
Pour reprendre.
Mais tu sais, à chaque fois qu'il y a eu un modèle de surveillance qui s'est imposé, il y a un modèle de contre-surveillance qui s'est imposé. Je me rappellerai. Anonymous, les indignés qui viennent de prendre le pouvoir en Espagne, rien à voir avec la Grèce. Hein. C'est toute autre dimension, on confond. Wikileaks, l'agent de la CIA Snowden, ça, on met tous les systèmes de contrôle, mais il y a toujours des contre-pouvoirs qui se mettent en place. Alors évidemment, l'objectif, je vais passer ça, vous lirez, hein, c'est d'avoir une ville intelligente, une intelligence de la ville, un citoyen éclairé, un citadin éclairé, au sens du XVIIIe siècle. C'est bien conscient de ce qui se passe, conscient des contrôles, conscient aussi de son pouvoir d'agir, et conscient aussi des bénéfices que peuvent amener cette Smart City. Hein. Mais en tout cas, quelqu'un de conscient. Mais pour le rendre conscient, ce citadin éclairé, il faut qu'il y ait des agora, il faut qu'on en parle, il faut qu'on débatte, hein, comme ici. Donc ça, je ne rentre pas dans les détails, ça aussi. Hacker la ville. Alors ça, c'est très à la mode en ce moment. Dans le monde entier, on hack les villes. Des groupes de designers, de hackers, des groupes collaboratifs, des groupes d'artistes aussi, des réseaux d'artistes, vont hacker la ville, c'est-à-dire la détourner. Situationnisme, Guy Debord, les années 60, on détourne la ville de sa fonction première. Alors regardez, voilà, on met une table pour créer un débat, des tables, c'est juste, il y en a des centaines, hein, je sais juste 2-3 exemples, hein, où on fait, vous savez, c'est cet arceau pour mettre les vélos, et bien on en fait un siège. Hein, on détourne la ville. Ça aussi, c'est une tendance fondamentale en ce moment dans les villes. Alors, je vous l'ai dit, l'économie collaborative n'a rien d'humaniste, elle représente le nouvel ordre économique et industriel. Le paradigme collaboratif est neutre, ce sont les usages, les valeurs, le souci du bien commun qui humanisent les technologies, c'est-à-dire vous. Enfin, j'espère. Culture, prototype et nouveau contrat social sur les territoires. Culture du prototype. Je ne sais pas si vous remarquez, mais tout est là en ce moment. Tout est là. C'est presque une idéologie. Hein. Tout est là. Alors, moi, j'ai... Alors, qu'est-ce que j'avais là? Lightning Lab, Open Lab, Live Lab, Fab Lab. Vous avez d'autres mots là qui... Tout est lab, tout devient lab. Hein. C'est incroyable. Même les monoprix. Incroyable. C'est la gare Montparnasse. Vous savez, je dis non, je suis pas la gare Montparnasse. Il y a un monoplab. Quand vous rentrez dedans, ça n'a rien changé. Il n'y a rien de lab dedans. Mais c'est devenu tellement à la mode que c'est devenu une arme de marketing direct. Monoplab. Non mais c'est vrai, tout est lab. N'importe quoi, chien lab. Vous pouvez tout décliner. Pourquoi? Parce que c'est une idéologie, l'idéologie de l'innovation. Attention, je la critique tout en disant que c'est génial. Vous voyez, je vais tout le temps osciller entre le plus et le moins. Évidemment, innover sur les territoires dans un changement de civilisation, c'est fondamental. Réfléchir à de nouveaux modèles sociaux, culturels, politiques, économiques, c'est fondamental. Mais il ne faut pas que non plus ça devienne une idéologie coercitive. Hein. Donc tout est là. Il y a une culture de l'expérimentation, de l'innovation. Je ne sais pas si vous, il suffit d'aller allumer les médias. On innove de partout. Les start-up, hein, les politiques de l'innovation du gouvernement, tout est dans le modèle de l'innovation. Ça marque. Qu'est-ce que l'innovation exactement? Et comment on innove? Ça, c'est le paire de manches. Mais c'est une vraie culture dans laquelle la présence de TMN Lab et de moi-même ici, c'est dans cette culture de l'innovation. Les technologies numériques et les pratiques collaboratives s'hybrident dans la conception de projets dans une dynamique de communauté créative basée sur le partage des biens communs. L'innovation sociale, la création, le territoire, l'éducation, l'accès au savoir se redéfinissent aujourd'hui dans des logiques de laboratoire. Fab Lab, Live Lab, la fabrique, le Learning Center, l'émergence des Learning Centers, les universités deviennent des Learning Centers, hein, des centres de connaissances. Ça émerge de partout, hein. Ce que je suis en train de vous raconter n'est pas franco-français, c'est juste mondial. Le terme en Allemagne, aux États-Unis, partout. Évolution des équipements culturels en France, vers des lieux hybrides et partagés. On voit émerger, un peu comme dans les années 90, vous vous souvenez, l'émergence des friches. Ah, tout le monde est sa friche. La friche belle de mer, on est tous des friches, nous on est en friche culturelle. C'est vrai, c'est la grande mode des friches. C'est la suite, hein. C'est tout simplement la suite. Avec la société collaborative qui se met en place, on voit l'éloignement des lieux de vie, de travail, de loisirs, raréfaction des lieux de socialisation dans les territoires, notamment dans les zones rurales. Cette petite ville de Tex, près de Vannes, qu'on accompagne, en 1950, il y avait 7 cafés. Dans la petite ville de 9 000 habitants, il y avait 7 cafés. Aujourd'hui, il n'y en a pas un. Les lieux de sociabilité disparaissent. Et là, l'enjeu des théâtres est fondamental. Alors on voit l'émergence de lieux partagés qui reposent sur une dynamique collaborative, notamment en lien avec les usages, outils et cultures numériques. La notion de tiers-lieu. En bibliothèque, on dit troisième lieu. La notion de tiers-lieu. Qui sait ce que c'est? Anne n'a pas le droit de répondre. Ni Julia d'ailleurs. Ni Christelle d'ailleurs. C'est quoi? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette notion? C'est quoi?
C'est un espace en dehors des lieux habituels, entre guillemets, où on peut se regrouper, se échanger, c'est recréer des espaces de socialisation.
Alors l'origine, c'est fondamental, hein, c'est le cœur du sujet. L'origine, c'est un sociologue américain qui s'appelle Claes Oldenburg dans les années 80, qui a écrit plusieurs textes théoriques autour de cette notion de tiers-lieu ou troisième lieu. Le premier lieu, ben, c'est quoi? C'est la maison. C'est le lieu de votre vie privée, c'est votre famille, premier lieu. Le deuxième lieu, ben c'est le travail. Le troisième lieu, c'est un lieu de rencontre, un lieu de sociabilité et un lieu collaboratif. Alors, traditionnellement, c'est le café. Ça n'a pas loupé. La première application concrète du modèle du troisième lieu de Claes Oldenburg, sociologue, eh ben c'est les Starbucks Café. Si vous allez au Starbucks Café de Wall Street, à New York, quand vous rentrez dans le Starbucks Café, vous demandez un café, bonjour Julie, hello Julie, je voudrais un café. Alors Julie me dit, quel est votre prénom? Pascal. Alors elle prend un marqueur et sur mon gobelet, elle met Pascal. D'ailleurs, c'est très concret. Et puis elle me dit, je vous appelle. Alors je vais m'asseoir dans l'espace du Starbucks Café. Il y en a un à Saint-Lazare aussi. Voici l'espace scénographique d'un Starbucks café. Vous avez le bar. Et puis, les tables sont rondes. Aucune table rectangulaire, aucune table carrée. Que des petites tables rondes, comme ça. Des îlots, en fait. Des îlots. Et autour des îlots, des petites bouffes. À l'intérieur du Starbucks, tout est en bois, parce que le bois, c'est chaud. En fait, c'est le saloon. Hein. C'est le saloon du Far West, bien sûr. Hein. En face de Wall Street, vous avez un Starbucks, tout est en bois. Et quand on rentre dedans, en sortant de la ville de New York, on rentre, ah, il y a une espèce de chaleur qui est dégagée. Ah, et bien sûr, des plantes vertes partout. Par-dessus, jazz. Au Starbucks de Wall Street, vous n'avez que du jazz des années 20. Un jazz, Woody Allen avec sa clarinette et une grande ambiance. Que du jazz. Bien sûr, Wi-Fi plein pot. Pas d'inscription, pas de connexion bizarre. J'arrive, je suis connecté. Je suis connecté avec mon téléphone portable, ma tablette, ma liseuse, mon ordinateur, mes lentilles de connexion, mes lunettes Google et mes objets connectés. Je suis connecté. Donc je peux me connecter au réseau. Vous voyez les couches? Le bois, les plantes, la musique, les tables rondes avec des petites bouffes. Le wifi. Et puis là, bah, j'attends. J'attends, hein, puis j'entends. En fait, entre-temps, Julie est rentrée. Je crois que Julie, ça doit être tout à Julie est rentrée parce qu'elle, elle a demandé un cappuccino. Alors, je suis assis, j'appelais Julie. Hein. Puis j'entends. Julie, votre cappuccino. Je connais son prénom, c'est lui. Je connais son prénom. Puis quelques minutes, Pascal, votre... elle connaît mon prénom. Ça va, on commence à comprendre. Qu'est-ce qu'un tiers-lieu? C'est ma définition personnelle. Un tiers-lieu, c'est un lieu où je peux tomber amoureux. Mais pour tomber amoureux, il faut des conditions. Les lieux de l'amour ont changé dans l'histoire. Je ne vais pas vous faire l'histoire des lieux de l'amour, mais entre la guinguette du 19e siècle au bord de la Marne, la boîte de nuit années 80, vous savez qu'il y a un DJ crétin dans une boîte en verre qui passe du Étienne Dao et de la soirée. Il y a eu une histoire de l'évolution des lieux. Ces lieux où je peux tomber amoureux, c'est parce que toutes les conditions sont réunies pour que je puisse le faire. Qu'est-ce que ça veut dire tomber amoureux? Ben, c'est le lien social, c'est la proximité, c'est la rencontre, c'est le relationnel. Qu'est-ce qu'un troisième lieu? Un lieu collaboratif où tout est fait, tout est imaginé pour la rencontre. On est pas mal là. On est pas mal dans le rôle du théâtre. Il y a encore des trucs à faire, mais il y a une bonne base. Il y a une très bonne base de travail. Il y a des livres, des étagères, des trucs pas mal. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Parce que ça, c'est très important que vous compreniez cette idée. En ce moment, je vous donne juste un exemple, hors du théâtre, la très grande problématique de l'identité des bibliothèques et des médiathèques en France, et nous, on est spécialistes avec Oriane, on forme les bibliothèques, on les accompagne, c'est l'idée de la bibliothèque comme troisième lieu. Pourquoi? Je vous résume les choses. 80% des contenus d'une médiathèque sont en ligne. Livres numériques, CD, DVD, tout le monde le sait. Et les bibliothécaires, elles ont un mot, elles appellent ça le désherbage. Ouais, c'est un mot professionnel, c'est pas drôle chez elles. Le désherbage, c'est vrai. La bibliothèque se vide puisque les contenus sont en ligne. Alors la question qui se pose dans une bibliothèque, qui est sur les territoires cette fois, comme vous, exactement dans la même problématique, d'ailleurs, il y aurait un lien à faire entre bibliothèque et territoire. Et il y aurait une réflexion commune à faire ici, par exemple, à Colomb, entre la médiathèque de Colomb et le théâtre, ici, sur cette idée du troisième lieu. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si j'enlève des étagères, si j'enlève des contenus qui sont maintenant en ligne, ben, l'espace est vide, alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut recréer et réinventer un lieu de sociabilité nouveau dans les médiathèques. Alors les bibliothécaires font la tête, parce que d'habitude, elles ont une petite touchette, elles sont inscrites derrière leur milieu, avec la carte de lecteur, et là, elles sont tout ça, elles sont obligées de se lever, de parler. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On passe de la notion de gestion de bibliothèque qui devient automatique, et puis c'est la FID, la bibliothèque automatique, à la notion de médiation. Comme vous, la notion de médiation avec les publics, dans l'idée du troisième lieu, devient absolument fondamentale. C'est pour ça qu'on vous parle, et que Anne, à travers TMNLAM, ne cesse de vous parler de médiation numérique. Mais ne résumez pas la médiation numérique, s'il vous plaît, uniquement l'utilisation des réseaux sociaux, des outils. La médiation numérique, c'est utiliser des technologies numériques aussi ici. Ici. Et c'est ça le troisième lieu. Alors ces troisième lieux sont plein de noms. L'émergence des espaces de coworking, la mutinerie à Paris. Le travail collaboratif, révolution dans l'histoire des entreprises. On travaille, le travail collaboratif dans les entreprises. Émergence des Fab Labs, on va voir après, des hackerspaces, des makerspaces. Il y en a partout dans toute l'Europe et tous les jours en France, il y a un Fab Lab, un makerspace qui se crée. Et qui crée cette idée du troisième lieu. Attention, bientôt les structures institutionnelles classiques, les musées, les théâtres et les médiathèques risquent d'être très très vite dépassées par ces lieux qui ont un succès considérable auprès des gens, des seniors, des enfants, puisque c'est des lieux où on se rencontre, des lieux où on s'aide. Vous connaissez les ateliers RIPER ? Bah oui, c'est lutter contre l'obsolescence programmée des technologies et des techniques. Mon grippin ne marche plus. Alors, vous faites RIPER Café. Il y en a dans toute la France. Et vous avez un RIPER Café, qui est une association qui a été créée par un plombier, un ancien ingénieur en aéronautique. Et là, il adore réparer. Lui. Alors, il a bien un vieux téléviseur, il vous répare votre objet. Et c'est une réparation collaborative. Là aussi, mutation profonde.
J'ai deux questions. La première, pour moi, c'est une lacune de ma part. Klaus Eulenburg, pour moi, c'est un artiste pop art.
Non, c'est Ray.
Ah.
C'est pas le même. Klaus, mais c'est pas le même. C'est
d'accord.
Pas quoi c'est pas celui.
Si.
Non.
Si, Klaus.
Oui, oui. Mais c'est Ray Eulenburg. Ah, excusez-moi.
D'accord.
Effectivement, j'étais longtemps professeur à l'école des beaux-arts de Marseille.
C'est pour ça. D'accord, c'est pour ça que
ce n'est pas le énorme hamburger pop art de
Klaus. Ou la bicyclette, de juste la deuxième question.
Oui.
À ce moment-là, si on a cette émergence des Fab Labs, effectivement, il y a plus partout, pourquoi les espaces publics numériques ferment ?
Parce que c'est la suite.
Mais pourquoi ils ne se transforment pas ? Pourquoi est-ce qu'ils
certains se transforment, certains ont compris, d'autres non. Depuis 1997, je forme les espaces, les EPL en France.
Oui, oui.
Les cyberbases, les points cibles, j'en ai même créé, voilà. Donc c'est vraiment, j'ai commencé par former des animateurs multimédia, mais c'est des EPL, ils évoluent, c'est l'évolution des EPL en fait.
Et pourquoi ils évoluent ? Pourquoi ils n'y arrivent pas en fait alors que
parce
c'est
que les problèmes de financement, parce que certains animateurs multimédia n'ont pas vu le vent venir aussi, tout simplement. Et parce qu'il y a une nouvelle génération, des gens comme vous, qui arrivent avec une imprimante 3D, alors que certains animateurs multimédia n'ont jamais vu ça. Vous voyez, c'est une bonne question, hein, mais c'est en fait la suite de l'histoire de l'Internet citoyen, j'en viens.
D'accord.
Ce qu'on appelle l'Internet citoyen.
Merci.
Je continue. Bon, je vous fais, vous irez voir ça le schéma, makerspace, hackerspace. Les makers. Culture du prototype et philosophie de la brique. Enfin, c'est comme ça que je l'appelle. Hein. Lego, CapLab, Playmobil, IKEA, Linux, Minecraft. Bizarre. Lego, ça vient d'où Lego, c'est quel pays ?
Danemark.
CapLab ? Finlande. Playmobil, Allemagne. IKEA, Suède. Linux, Finlande. Minecraft, Norvège. C'est bizarre quand même. ça, je peux vous dire que ça, c'est une information exclusive parce que je l'ai trouvé tout seul. Une fois là, Ivan the Creator. Bon, problème du créateur, c'est que je suis assez nul pour ne. J'arrive pas. Je n'ai toujours pas compris pourquoi les pays du nord de l'Europe ont cette philosophie de la brique, de l'assemblage, du fais-le toi-même. C'est incroyable. Alors je me suis penché sur l'histoire du protestantisme, de Max Weber et la ville, mais je n'ai toujours pas, je cherche d'ailleurs quelqu'un qui pourrait m'expliquer, un anthropologue, un sociologue, pourquoi dans ce au nord de l'Europe, cette pensée du fais-le toi-même, construis ton meuble toi-même, construis ton système d'exploitation toi-même, construis ton architecture virtuelle 3D toi-même, construis tes petits soldats toi-même, construis tes maisons toi-même, voilà, vous avez compris d'où ça vient. Et pourtant, cette philosophie du do it yourself est en train d'inonder le monde, parce que c'est celle des tiers-lieux. Fais-le toi-même. Et si tu ne sais pas faire, on va t'apprendre. Do it yourself, la culture des fuzzers, des makers. Si vous tapez makers aujourd'hui sur Google, vous allez voir. Hein. Culture mondiale. Vous pourriez à tout moment faire partie des makers. C'est un choix personnel.
Il y a
mieux
qu'à faire déjà, quel lieu quand même.
Tout à fait.
À la Porte de Paris qui est actuellement un lieu assez commercial, d'ailleurs on l'a vu depuis deux sessions.
Oui, tout à fait. De nouvelles générations de gens qui arrivent. Tous les deux ans, tous les ans, il y a une maker faire dans une capitale. À New York, à Los Angeles, à Paris, à Berlin. Do it yourself. La culture de bon, je passe, la culture de l'open source. Évidemment, l'émergence de l'imprimante 3D, qui peut vous paraître un gadget comme ça, c'est juste la troisième révolution industrielle. C'est juste reconstruire le monde, repenser le monde. Car avec une imprimante 3D, je peux aujourd'hui tout faire. Et ce n'est que le début. On est au tout début de l'histoire de l'imprimante 3D. Si je vous parle de bioprint, imprimer les cellules, fabriquer de nouveaux organes, c'est l'organe. Changer un cœur, une oreille, un foie. Il y a quelques mois encore, il y a deux mois, deux bébés qui sont nés en prématuré ont été sauvés grâce à une imprimante 3D. Pourquoi ? Parce que le chirurgien très en pointe avait tout compris. Il avait dans le bloc de chirurgie une petite imprimante 3D et ces bébés sont nés avec une trachée déformée. Alors, ils ont, avec un logiciel 3D, ils ont recomposé sur un fichier 3D une mini trachée exactement à la taille et à l'échelle du bébé. Ils l'ont fabriqué en quelques minutes, ils l'ont posé. Ils ont sauvé les deux bébés. Coût d'intervention, $60. Les coûts. L'imprimante 3D à béton qui va construire des maisons. Vous avez le livre, vous rentrez, vous passerez à la Colombe dans 15 ans et vous verrez des immeubles entiers construits par des imprimantes 3D. Les Chinois l'ont déjà inventé, l'imprimante à béton. Ils construiront avec des drones. Sur la surveillance, c'est les drones. À Nantes, c'est la première école de pilotage de drones civils qui vient d'être créée, drones civils. Des drones d'ambulance, des drones qui contrôlent les foyers d'incendie. Et donc, vous verrez carrément des immeubles entiers construits en imprimante 3D. Je vous ai mis deux références à Lille, une de gauche, une de droite. Celle qui est à droite est droite, et celle de gauche est gauche. Ici, vous avez un des très grands disciples de Hannah Arendt, philosophe allemande de génie. Il s'appelle Richard Sennett, immense sociologue américain new-yorkais, qui a écrit un livre, Ce que c'est faire la main, le retour de l'artisanat, le retour de la main tout court d'ailleurs, y compris dans l'histoire des technologies, des souris, le retour de la main, retour dans l'histoire, le roi Bourron. À droite, Chris Anderson, un des penseurs de l'économie numérique du livre, qui a inventé un système, une stratégie qui s'appelait la stratégie de la longue traîne. Il a abandonné le livre. Aujourd'hui, ce qui l'intéresse, c'est les makers. Il dit que bah, pour devenir riche, hein, il faut devenir un maker, très vite. Je vous incite de lire ces deux livres. Ce sont deux couleurs différentes, mais les deux sont tout aussi passionnants que l'autre. C'est votre contexte. La culture collaborative a ses lieux physiques sur le territoire, dans l'espace urbain. Je viens de vous le dire. Les tiers-lieux. Les lieux de la société collaborative, des espaces intermédiaires et lieux d'innovation et d'expérimentation. Toutes les photos que vous avez derrière, collectionnées, archivées, indexées par ma collègue Oriane, sont des lieux, des tiers-lieux. C'est extrêmement varié. Des tiers-lieux, vous pouvez en avoir n'importe où, dans n'importe quelle situation. Il n'y a pas de normes, ce sont des lieux ouverts et informels. Culture du partage et de la contribution. Opa, pardon. La notion de tiers-lieu, petite définition. Espace hybride et collaboratif croisant les technologies et le souci du bien commun en privilégiant l'accès au savoir et au savoir-faire. Définition officielle. Officielle. Officieuse en fait, parce qu'il n'y a pas de définition officielle. Une des définitions possibles de la notion de tiers-lieu. Une médiathèque, une association, une structure éducative, un centre de loisirs, une librairie, un café associatif, une salle de spectacle, tous ces lieux peuvent évoluer vers la notion de lieu hybride et collaboratif. C'est simplement une question de décision, mais aussi de scénographie, de mise en scène, de services proposés et de gens formés. C'est tout un ensemble, tout un écosystème. Lieux informels et modulables dans leur fonctionnalité. Donc ça, voilà. Est-ce que ça peut devenir le futur hall du théâtre ou l'espace d'accueil du théâtre, à vous de me le dire tout à l'heure et cet après-midi. Lieux informels, la notion d'informel, hein, Richard Sennett l'a dit, ce qui est informel est innovant. Le sociologue américain, Richard Sennett, c'est ce qu'il dit. Tout ce qui est informel est innovant. Se crée l'innovation, les nouvelles idées. Tout ce qui n'est pas dans le cadre institutionnel, cadré par des normes. La scène théâtrale italienne, ben, quand on a commencé à faire du théâtre dehors, dans la ville, c'était la rupture avec l'idée du cadre et du théâtre italien. Donc elle est dans l'informel. C'est la même chose aujourd'hui.
C'est un peu ce que fait la Gaîté Lyrique à Paris.
Comment ?
La Gaîté Lyrique à Paris. Quand on arrive, il y a des cours de...
Il n'y a personne à la Gaîté Lyrique.
Bon, c'est
presque quelqu'un de la librairie.
Parce que c'est un partenaire de l'agence Rétis aussi, vraiment. Donc.
Oui, sur le papier.
Ça marche pas très bien.
C'est pas ça. C'est... Ah, oui. Sur le papier, c'est vrai qu'il y a cette volonté. Après, quand on regarde la scénographie d'accueil de la Gaîté Lyrique, qu'est-ce que vous avez? Une borne d'entrée, un serveur à l'entrée. Ah, tout à fait, il y a des éléments. Mais bon, je ne peux pas dire encore que la mayonnaise a pris et que la Gaîté Lyrique, c'est un grand tiers-lieu où tout le monde peut arriver. Même les pompiers qui voudraient redesigner leur caserne, repenser leur caserne, pourraient se réunir dans un travail collaboratif entre pompiers, pour repenser la caserne, par exemple. Non. C'est pas un tiers-lieu, parce que la dimension n'est pas totalement sociale. Alors je sais, parce que j'ai discuté avec plusieurs personnes de la Gaîté Lyrique, qu'aujourd'hui ils sont en train d'essayer d'aller vers cette idée. Donc plus de sociabilité, plus de liens, plus de rencontres, plus d'autonomie du citoyen, plus de proposition du citoyen, sur le programme même de la Gaîté Lyrique. Alors moi j'ai des questions à vous poser. Le théâtre peut-il être un tiers-lieu hybride et partagé fonctionnant sur des modèles ouverts et des pratiques collaboratives? Cet après-midi, tout à l'heure, après, quand on discutera. Alors j'ai une définition du lieu que j'ai pris chez un des philosophes et sociologues que j'adore le plus au monde, Michel de Certeau, personnage à part, avec un ouvrage extraordinaire dont je vous conseille la lecture à tout le monde, qui s'appelle L'invention du quotidien. Passionnant. Passionnant. Et bien dans ce livre, ils définissent ce qu'est un lieu. Est un lieu l'ordre selon lequel les éléments sont distribués dans des rapports de coexistence. Enfin, c'est une définition philosophe. Hein. Mais c'est à méditer. Est-ce que ce rôle, hein, c'est à méditer? Le théâtre pour créer des ambiances communes. Aux États-Unis, on appelle ça ambiance commons. Commune, ça veut dire pour les partages. Les ambiances, créer une ambiance, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire créer une ambiance? Un metteur en scène, c'est le faire. En tout cas, j'espère. Est-ce que, finalement, je lance une idée, quoi. C'est juste une idée que ça, qui me passe par la tête, en plus, c'était pas prévu. Est-ce qu'on pourrait pas prendre un très grand metteur en scène et au lieu de lui demander de faire un spectacle, lui demander de repenser le lieu? Un metteur en scène, hein, surtout pas un architecte. Et surtout pas un scénographe. Non, un metteur en scène. Lui dire, ben voilà, comment on peut repenser ce lieu, alors tu imagines, hall mise en scène par... Bordel, Bonjour.
Ah voilà. Hein, il va falloir choisir.
Voilà. Donc, le hall remis en scène par un metteur en scène pour créer une ambiance, du lien social, de la proximité, de la rencontre, de l'agora citoyenne, de la co-construction de projet. Hein. Moi, ce que je trouverais formidable dans un théâtre comme celui-ci, c'est imaginer dans le quartier, il y a un projet de banc public. Ah, la mairie veut changer les bancs. Ah oui, mais là... Grégoire monte un grand atelier participatif avec les citoyens du quartier pour essayer d'aller imaginer ces bancs publics. Puis on fait venir l'école de design, hein, on fait venir les jeunes designers, et puis on fait venir aussi des gosses de 14-15 ans avec Minecraft qui vont s'amuser à faire des bancs publics, toutes sortes de bancs publics. Hein. Et puis finalement, tous ensemble, pendant deux jours, on va repenser le banc public de la commune de Colombes. Et puis on va les proposer ça à la mairie. Ah, bien sûr, il y aura des élus aussi dans les... C'est ça, le design social. Le design social, c'est co-construire la vie publique avec les gens. Ça s'invente en ce moment dans les territoires.
Il y a un metteur en scène parce qu'il y a de l'humain qui prend un architecte.
C'est ça. C'est ça. C'est la dimension humaine. J'aurais pu vous parler, je ne l'ai pas fait, j'aurais pu vous parler de la médiathèque de Lezoux, dans le Puy-de-Dôme. Lezoux. Ça, Lezoux, c'est pas dans Chicago. Hein. C'est une petite interco. Il y a 3 ans, ils avaient un projet de médiathèque. Alors, ils se sont associés à la 27e région. De la nation des conseils régionaux de France, où là, il y a un groupe de designers qui passe son temps à aider les élus, les collectivités, à co-construire et inventer un équipement avec les citoyens. Et pendant trois ans, on a monté des ateliers, on a fait venir des pirate box. Ah tiens, une pirate box en ligne. Non, j'en parlerai pas. Une pirate box en Angleterre, c'est bien ça. Ça serait la première fois en France. Il y en a une bibliothèque déjà. Ils appellent ça des bibliobox. Mais on pourrait avoir un projet, mais quoi, mettre en place une pirate box.
Ça fait beaucoup de projets, tout ça, c'est bien. Je suis pas déçu d'être venu ce matin.
Tout à fait. Alors, on a imaginé pendant 3 ans la nouvelle médiathèque de Lezoux. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous donne juste quelques idées qui sont sorties. Vous savez, une médiathèque, c'est... le rôle d'une médiathèque, c'est pas de prêter du savoir, vous êtes d'accord? Prêter des livres, prêter des CD, prêter des DVD à une carte de lecteur. Eh bien, nous, on a inversé le modèle. Au lieu de prêter, on attendait aux gens de nous prêter. On a appelé ça les fonds participatifs. Alors, moi, chez moi, j'ai une collection de livres de 3000 livres de théâtre. C'est passion, je suis bibliophile fou. Donc, j'ai une très belle collection. Alors, je la regarde chez moi, devant mon mur tout seul, de façon mégalomaniaque, en disant, oh, j'ai une super collection de théâtre, c'est trop bien. À qui elle sert? À quoi elle sert? À rien. Je la lis même pas. Autant que je la prête à la médiathèque de Lezoux. Donc la médiathèque de Lezoux va aller chercher mes livres, va les indexer, bien sûr, sur le catalogue de la médiathèque, et, très chic, encore plus chic, collection Pascal Desfins. Ah, on s'est aperçu qu'il y avait, aussi une dame qui avait 5000 romans policiers de Belferia. Vous voyez comment ça peut se passer? Ah, puis on est ouvert aussi sur les instruments de musique, parce que la médiathèque de Lezoux n'a pas les moyens de s'acheter 74 instruments de musique, vous voyez. Alors on a demandé aux gens, vous avez des instruments de musique? Ah ouais, moi j'ai un hautbois. Ah moi j'ai une flûte. Moi j'ai un vieux banjo, mon boss, je l'ai acheté, mais on s'en est jamais servi. On récupère les instruments de musique, on les met dans la médiathèque, à disposition des enfants, des gens. C'est ça, la médiathèque de Lezoux. Cette médiathèque de Lezoux fait le tour du monde. Elle vient juste de commencer à être construite la semaine dernière. C'est le projet qui fait le tour du monde. Dans le Guardian à Londres, double page. Mediatek of Lezoux, 2. Citizen Empowerment. Ce modèle que je suis en train de vous décrire, on le fait sur texte, ce modèle est en train de se décliser en ce moment pour le monde entier. La co-construction des politiques publiques avec les citoyens. Mais là, ce n'est pas la démocratie participative du Conseil régional de Poitou-Charentes. Bon, ça n'a pas d'idée. Vous voyez, ce n'est pas la démocratie participative des années 80, du genre, on a un projet de médiathèque, on met tous les citoyens dans une salle des fêtes, on leur montre le projet, ça vous va, au revoir. Non, là, c'est concevoir dès le début avec les gens. Imaginez le hall du théâtre de Colombes, c'est d'imaginer avec les spectateurs ici, les gens du territoire, ici, qu'est-ce qu'ils voudraient dans ce hall, qu'est-ce qu'ils auraient envie? Une imprimante 3D pour fabriquer des jouets pour les enfants, je ne sais rien, ça peut être plein de choses.
Mais je ne comprends pas, c'est pourquoi ça a été différent du... de cette démocratie participative, il fallait co-construire avec les
gens. Vous savez qui est président du Conseil régional de l'équipe de Touchante? Est-ce que vous savez qui c'est? Vous savez qui c'est? Voilà. Vous êtes déjà le...
C'est vrai.
Oui, parce que moi j'ai travaillé, si vous voulez. Donc il y a un petit décalage entre l'idée et les faits. Oui, c'est la suite, si vous voulez. Je suis d'accord avec vous, c'est la suite. Sauf que là, ça prend corps. C'est-à-dire que, avec ces lieux, forcément, avec ces centaines de tiers-lieux qui se mettent en place sur tout le territoire, les gens vont venir, et si les gens vont venir, si les gens viennent, bien forcément, ils vont adopter une philosophie du collaboratif, du partage. Vous vous rendez compte de la richesse? C'est le principe de Wikipédia. La richesse de Wikipédia, c'est quoi? Si je donne un petit caillou, je reçois le caillou de tous les autres. Et c'est ce qu'on fait là, et c'est ce que Anne fait, c'était un état, c'est ça. Elle vous a dit, c'est une communauté. Elle n'a pas dit, je suis chef du réseau, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'entends, j'écoute. Anne n'a pas dit « je suis chef d'un réseau qui s'appelle Ternendal avec Christelle et Jules ». Non, elle a dit « c'est un élément d'une communauté ». Oui, certes, qu'on a créé, mais cette communauté, elle est collaborative. Ternendal, c'est un réseau collaboratif. Pour moi, en tout cas. C'est pour ça que j'y suis, sinon j'y serais pas. Alors, parlons du spectateur. Le spectateur citateur, producteur de savoir. Oui, chaque spectateur est producteur d'un savoir, a une mémoire. Une mémoire du spectacle, une mémoire du théâtre. Sa mémoire à lui de tout ce qu'il a lu. Chaque spectateur pour la relation publique, pour la relation presse, est producteur de savoir. Crowdsourcing. Crowdsourcing. Les ressources produites par la foule. Une personne en soi n'a aucun intérêt. 100 000 personnes qui parlent de théâtre en ça génère de la richesse, de la valeur. Croyez-moi, les entreprises ont compris. Facebook, c'est ça. Facebook, c'est quoi? Une grande entreprise de crowdsourcing. C'est le plus grand fichier client marketing du monde. Et en plus, vous, c'est vous qui vous inscrivez. Ça se fait. Faites gagner des milliards de dollars à Mark Zuckerberg, et volontairement en plus. C'est ridicule. Le théâtre a toujours été une agora citoyenne, on l'a vu au début de mon intervention. À l'heure de la société collaborative, quel dispositif de médiation et quelle logique d'innovation doivent s'inscrire dans le milieu théâtral? C'est carrément le sujet d'Anne cet après-midi. Développer le sentiment d'appartenance au territoire, ça aussi c'est essentiel. Moi, je me souviens quand même de MC4. Il n'y a personne qui m'a ici.
Bonjour.
Ma maison mère. La première fois que j'ai mis la pied sur une scène. À Bobigny, par exemple, dans les années 80, qui venait à la MC93? Les Parisiens. C'est très chic, c'était européen, c'était même mondial, à l'époque de René González. Et de toute la France, de tout le Paris, on venait à la MC. Mais les gens du quartier de Bobigny, non. Il n'y avait rien pour eux. Il n'y avait aucune ouverture pour eux. Avec l'avènement des tiers-lieux, cette dimension-là prend corps, devient de plus en plus essentielle et de plus en plus, j'allais dire, prégnante. Cette inscription du théâtre dans le quartier. Mais pas avec la vision post-trotskiste, avec une vision liée à l'innovation, au mouvement des makers, et à reformuler de nouveaux modèles culturels, économiques et politiques. Le théâtre comme lieu de construction des biens communs et boîte d'outils des populations. Médiation et design social. Médiation, c'est vraiment le thème de l'art. Irriguer et inciter le partage et la contribution des savoirs des habitants et dans la co-décision du citoyen dans l'espace public. Alors, je me suis amusé, à imaginer l'espace d'accueil. Il y a deux visions, hein. Suite à tout ce que je viens de vous raconter. Il y a une vision, c'est le guichet. Le guichet, la borne d'accueil, le consommateur, l'espace figé. Vous savez, j'arrive au théâtre, il y a un arrêt serveur. Vous avez oublié, un arrêt comme ça. Vous arrivez à la bibliothèque, avec sa douchette, hein, vous arrêtez comme ça. Hein. Tous les lieux culturels ont cette dimension-là. Ça, c'est la dimension hiérarchique. Et puis, à côté de cette dimension hiérarchique, il y a la société collaborative qui se met en place, et il y a peut-être une autre notion du lieu d'accueil ou de l'espace d'accueil du théâtre. Et là, c'est les mots changent. Écosystème, lieu modulable, contributeur, lien, rencontre, partage. Si vous prenez un jeune metteur en scène brillant pour réimaginer l'espace, il faut lui dire, ben voilà, essayez de nous réimaginer l'espace dans cette logique-là. Je lance ça à titre indicatif, hein. Vous savez, on marche sur des œufs, hein. Je ne suis pas en train d'affirmer des choses, je suis en train juste de poser des problématiques. Je n'ai aucune prétention là-dessus. C'est simplement pour nourrir l'après-midi et tout de même. D'autres séances à venir.
Mais ça, rapidement, ça interroge la question de la hiérarchisation dans notre milieu quand même, qui est un milieu ultra hiérarchisé, et ça nous rappelle, ça nous renvoie à la question de la création, parce que le metteur en scène, l'éclairagiste, premier assistant, deuxième assistant des fois, l'existence même du théâtre est liée à cette hiérarchisation à outrance, oui. Avec des figures tutélaires qui sont les directeurs de théâtre, qui ont tendance à changer, et heureusement.
Je pense que la notion de metteur en scène était carrément un dieu divin, Jean-Pierre Vincent, c'était le divin, c'était eux les créateurs de sens. Cette notion est en train de s'effriter.
Elle s'effrite, mais on n'a pas encore défini de nouveaux standards, entre guillemets, qui du coup redéfinissent la question de création sur un plateau, ou pas d'ailleurs. Peut-être que la création n'est plus sur un plateau, on y va certainement. Mais, voilà.
En tout cas, ça questionne, quoi qu'il arrive.
Si je me souviens aussi la question pardon, des barrières symboliques, parce que l'espace d'accueil, il faut rentrer dans le théâtre. Et là, je crois que les barrières symboliques, il a essayé de les faire sauter, mais il n'a pas pu complètement démocratiser le public. Et il y a encore des gens qui disent, ah, je ne connais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.
Alors, Chaillou, c'est spécifique. C'est quand même un énorme bateau. Et c'est vrai, ça. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. Je dis que la chose que j'affirme, par contre, c'est que la société collaborative se met en place. Elle ne vous attendra pas. Elle ne vous attendra pas. Je vous le dis tout de suite, parce que ça, c'est une réalité, en fait. Alors, moi, je résume tout ça en une phrase. Ça, vous pouvez tweeter. C'est ma phrase. Je la résume comme ça, parce que je me trompe. Mais le théâtre qui va vers au public, et pas le public qui va au théâtre. Le public qui va au théâtre, c'est la communication. Venez au théâtre, hein, hop, je t'envoie des flyers, des machins, voilà, marketing. Hein, communication. Viens au théâtre. Le public vient au théâtre et on va tout faire en tant qu'RP, relations presse, directeur du théâtre, secrétaire général, pour que le public vienne au théâtre. Ben moi je vous dis inverser le modèle. Ça, j'exagère, je caricature. Cette dimension, elle existe encore, elle existera toujours. Mais cette dimension du théâtre qui va vers le public devient fondamentale. Et là, c'est plus la notion de communication, c'est la notion de médiation. C'est quoi la différence? C'est la stratégie de communication, c'est top-down, hiérarchique. Moi, RP, je gagne des frais de la formation spectateur. Et c'est moi qui dessine. Hein. Et c'est moi qui produis, et c'est moi qui invente. Alors que la médiation, c'est un dialogue. C'est dialogique. Si je discute, qu'est-ce que ce spectateur peut m'amener comme idée? Qu'est-ce que je peux lui donner? C'est l'idée du médiateur, donc du lien. C'est à réfléchir, c'est encore le sujet principal de la médiation. On est bien un théâtre qui va en public.
Oui, mais c'est déjà arrivé quand il y avait la décentralisation dans les années 50. Et quand le théâtre se déplaçait de campagne en campagne, les spectateurs retrouvaient les mêmes metteurs en scène d'une année à l'autre.
Tout à fait. Il y a eu plein de tentatives. C'est une longue histoire, la médiation. C'est une longue histoire, la médiation. Mais je vais vous donner un autre exemple. Je